Bonjour tout le monde, merci d'être là. Ben, c'est parti, mon kiki!
En direct de Pyeongchang, voici Philippe Bonneville.
Et ben, vous sentez dans mon enthousiasme que je suis très heureux parce que oui, j'aime beaucoup ça, moi, les Jeux olympiques, qu'est-ce que tu veux? J'aime ça voir les compétitions, puis j'aime ça quand on gagne des médailles, puis ça m'excite. C'est un fait, je m'assume complètement. Il est nos yeux et nos oreilles. C'est Philippe Bonneville, qui est notre envoyé spécial à Pyeongchang. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Bernard.
Alors, écoute, t'as vu ça, toi, la cérémonie d'ouverture. J'aimerais ça que tu nous décrives ça un petit peu, que tu nous parles de tes coups de cœur.
On peut dire vraiment, Bernard, que c'est une cérémonie, un spectacle qui a été sous le signe de la paix. À plusieurs moments, on a vu beaucoup de blanc, couleur de la paix, symbole de la paix, des colombes, des chandelles, la chanson Imagine de John Lennon, beaucoup de symboles comme ça, mais aussi des symboles ou des signes encore plus évocateurs d'une peut-être possible paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, en tout cas un signe de rapprochement, notamment lorsqu'il y a eu cette entrée assez marquante quand même pour tous ceux qui étaient sur place, entrée marquante au même moment des athlètes sud-coréens et nord-coréens. Vous aurez remarqué que ces athlètes-là portaient des vêtements complètement blancs avec simplement le mot « Korea » écrit sur ces vêtements-là. Donc ça, ça a fait en sorte que ça crée pas mal d'émotions dans le stade olympique. Et autre moment, disons, très symbolique qui a eu lieu, ce sont ces deux joueuses de hockey, Bernard, deux joueuses de hockey de la Corée, soit une joueuse de la Corée du Sud et une joueuse de la Corée du Nord, qui ont transporté ensemble la flamme olympique jusqu'à la vasque olympique. Il faut rappeler aussi qu'au tout début de la cérémonie, peut-être que les gens ne l'ont pas vu, mais il y a la sœur de Kim Jong-un, qui était présente dans le stade, qui a serré la main au président sud-coréen, un geste qu'on n'avait pas vu depuis des décennies. Donc, signe que si un jour, Bernard, il y a une paix ou un véritable rapprochement plus permanent entre les deux Corées, il faudra se rappeler dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, si ça se produit véritablement, que tout ça a commencé à quelques mois des Jeux olympiques. Signe que le sport, là, ça peut mener à de très grandes choses.
Alors, tu as tout à fait raison. Puis, veux pas, quand tu regardes ça, tu te dis, c'est le pari de Pierre de Coubertin, un peu, hein, le fondateur des Jeux modernes, qui voulait justement que pendant les Jeux, on mette de côté les conflits, que ça devienne une espèce de période de paix. Et là, c'est un peu ça qu'on a vu aujourd'hui, donc, avec ce rapprochement avec les deux Corées qui s'est manifesté de toutes sortes de façons symboliques. Donc, c'est très bien. Moi, je suis très content de ça. J'ai pas le goût d'être cynique par rapport à ça. Parle-nous maintenant un petit peu de la suite des choses. Parce que là, d'abord, les compétitions avaient déjà commencé, notamment les compétitions de curling, n'est-ce pas?
Absolument. Le curling impliquant d'ailleurs le Canada, ça avait été la première discipline à se mettre en branle ici du côté de Pyeongchang, mais quelque chose qui va peut-être un peu plus intéresser les auditeurs québécois, c'est parce que le curling, bon, on a beau vouloir dynamiser le curling, là, ça reste que c'est du curling. Hein, ça attire peu. Dans l'Ouest canadien, c'est plus populaire qu'au Québec, disons.
Mais aujourd'hui, pendant
que vous dormiez, vous, Bernard, pendant que les auditeurs dormaient à point fermé, moi, j'étais au bas des pistes parce qu'il y avait cette qualification à l'épreuve des bosses. 5 skieurs canadiens qui ont offert toute une performance pendant que les gens dormaient au Québec. Je dis un peu ce qui s'est passé. Là, Michael Kingsbury, premièrement, qui devrait, selon toute vraisemblance, remporter la médaille d'or. Hein. C'est Michael Kingsbury, il a tout gagné au cours de sa jeune carrière. Il détient à peu près tous les records et il a complètement dominé ses adversaires aujourd'hui lorsqu'on était sur place. Ça avait l'air tellement facile quand il contournait les bosses, quand il effectuait ses sauts. Et les gens dans la foule, les Coréens principalement, là, disaient des « oh » et des « ah » en le voyant aller, tellement il est impressionnant, tellement il vole plus haut que tous les autres compétiteurs. Donc ça, c'est pour Michael Kingsbury, mais il y a aussi eu Justine Dufour-Lapointe qui, elle, avait gagné l'or à Sochi. Elle aussi, elle a offert une très bonne performance. Elle a réussi à se qualifier pour la finale.
Bon.
Et Bernard, on a beaucoup parlé du froid hein, depuis une semaine ici à Pyeongchang, mais dites-vous qu'aujourd'hui, on a été très chanceux. Il a fait chaud, même en tout cas chaud, moins froid que les autres journées. C'était du ski de printemps et pour la cérémonie d'ouverture, on craignait des froids, là, un froid glacial. ben les organisateurs ont été extrêmement chanceux parce qu'il faisait autour de moins 8 degrés alors qu'on prévoyait pendant un certain moment moins 20. Donc, c'était pas si désagréable pour les gens présents dans le stade.
Alors, les bosses, les compétitions de bosses, là, est-ce que la ronde des médailles, est-ce que c'est dans les prochaines heures avec Kingsbury, avec Justine Dufour-Lapointe et sa sœur? Je pense qu'il va devoir prendre un autre chemin pour essayer de se rendre à cette ronde des finales.
Vous suivez bien ça. Ça paraît que vous aimez l'olympisme, Bernard, parce que c'est vrai que Justine Dufour-Lapointe, elle s'est qualifiée directement pour la finale qui va avoir lieu au début de la semaine prochaine. Ce sera lundi. Okay. Mais sa sœur Chloé, a eu un peu plus de difficultés et elle devra passer par la deuxième qualification juste avant la finale. Et moi, ce soir, j'ai parlé avec la mère, justement, des deux sœurs Dufour-Lapointe. Elle était un peu déçue. Hein. Vous savez, une maman, c'est une maman, peu importe l'âge de nos filles, quand on est au bas de la pente, parce qu'elle est physiquement présente, la mère, ici, elle a le cœur qui bat la chamade en voyant ses deux filles tenter de se qualifier. Elle aurait bien aimé ne pas avoir le stress d'une deuxième qualification. Donc ça va avoir lieu lundi, mais en fin de semaine, je vais en rafale, là, il y a beaucoup de Québécois à surveiller. Excellent potentiel de médailles dès cette fin de semaine. Vraiment, là, vous serez vissé devant vos téléviseurs et vous écouterez mes reportages à la radio parce que, premièrement, il y aura de l'action en patinage courte piste, Bernard. Woohoo! Finale du 1500 mètres demain, samedi.
Charles.
Ça, c'est Charles Amelin. Charles Amelin qui sera là. Samuel Girard. Hein, ça, c'est Samuel Girard, c'est le dauphin. C'est celui qui va remplacer Charles Amelin dans quelques années. Ces deux-là pourraient monter sur le podium en fin de semaine. Moi, je vais être sur place. Je veux absolument assister à ça. Dans la nuit de samedi à dimanche, ça, c'est à l'heure du Québec. Levez-vous tôt, couchez-vous tard, choisissez ce que vous voulez. Ben, Alex Hervé, il va participer à sa première épreuve, c'est le skiathlon. Et lui, il dit que c'est son épreuve préférée. Il n'est pas champion du monde dans cette épreuve-là, mais il aime l'épreuve du skiathlon, qui est 15 km de classique, 15 km de style libre. Il y a un potentiel de médaille. Et Max Parot. Max Parot, moins connu que Charles Amelin, que Marianne Saint-Gelais, que Michael Kingsbury. Mais Max Parot, de la région de l'Estrie, lui, c'est une super vedette des sports extrêmes, quintuple champion aux X Games. Il a des centaines de milliers de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. Et lui, en surf des neiges, là, il pourrait gagner une médaille dès cette fin de semaine. Donc, vous voyez là, le portrait de la situation. On pourrait se retrouver lundi à se parler, vous et moi, en ondes, avec déjà pas mal de médailles au cou de nos athlètes.
Ah, c'est excellent. Et juste avant de se laisser, petite frousse avec Laurie Blouin hein, aujourd'hui.
Ah oui, vraiment, là, elle qui a été transportée, évacuée sur une civière, malheureusement. C'était une descente d'entraînement. Elle, c'est une championne de slopestyle ou descente acrobatique, si on veut bien parler le français. Laurie Blouin qui s'entraînait, tentait d'atterrir après avoir effectué un double saut périlleux. Eh bien, sa planche, elle serait malheureusement demeurée coincée dans la neige pour une raison qu'on ignore. Là. C'est une mauvaise manœuvre ou un problème dans la neige, dans la piste, on ne le sait pas. Mais elle est demeurée immobile pendant un bon moment. C'était inquiétant. On l'a évacuée sur une civière, transporté dans un hôpital ici à Pyeongchang. Mais le Comité olympique canadien nous a dit, bon, elle est sortie de l'hôpital, elle a un médecin de l'équipe canadienne qui est avec elle, elle est consciente, alerte, ce sont les mots utilisés par le Comité olympique canadien. Mais le problème, c'est que pour elle, sa finale en slopestyle, en descente acrobatique, c'est dimanche. On a 14 heures d'avance sur vous, là, présentement, donc ça va venir vite dimanche ici. Donc, est-ce qu'elle sera rétablie à temps pour participer ou si son rêve olympique sera brisé malheureusement cette année à cause d'une blessure à l'entraînement, ce sera quelque chose à surveiller.
Juste en terminant, revenons à cette cérémonie parce que je veux que tu nous en parles, je veux que tu me dises l'effet que tu as fait, le porte-drapeau des Tonga, Pita, comment on dit, Taofa Tofua.
Mais lui, on peut dire que c'est un récidiviste, hein? Vraiment, c'est un récidiviste du torse nu, oui. Bernard, parce que c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup. Il avait dit « je vais le refaire », il l'a refait. Écoutez, les gens l'ont applaudi chaleureusement. Tout un spectacle qu'il a offert, ce représentant de Tonga, en se présentant le haut du corps dénudé avec de l'huile. Quelle sorte d'huile, je ne sais pas, là, l'huile de noix de coco, mais en tout cas, il y en avait de l'huile, ça réfléchissait.
Avec
ça
des sandales! Avec des sandales, avec des sandales, il fait froid, là!
Ouais, absolument. Comme je vous ai dit, il faisait un peu plus chaud que ce qu'on prévoyait, mais quand même, on sait l'hiver, il faisait au moins moins 8. Lui, il n'a pas peur de ça, du froid, même s'il vient de Tonga. Et il a fait toute une impression, tout un effet dans le stade olympique de Pyeongchang.
Il s'est qualifié pour quel sport, lui?
Ça, je ne le sais pas, mais je pense qu'on va le surveiller de près. Hein?
J'ai vu le 15 km quelque part, mais je me suis dit, le 15 km de quoi? Il n'y a pas de neige au Tonga?
Mais vous savez, il y a des gens aussi de bien.
Ma connaissance, 15 mètres, style libre. Ah, c'est ça, fondeur. Donc, le ski de fond, apparemment, il se serait qualifié. Je ne sais pas comment ils ont réussi ça, là. Ils ont dû y faire de la neige artificielle au Tonga pour qu'il puisse faire sa performance. Je ne sais pas trop. En tout cas.
Vous aurez remarqué que le seul représentant des Bermudes est entré dans le stade en Bermuda, lui. C'est assez spécial quand même.
Oh, vous allez en voir des vertes et des pommures, mon cher Bonneville.
Absolument.
Alors, envoyé spécial donc à Pyeongchang. Prends soin de toi, Philippe, au plaisir de te parler. Essaye d'aller dormir un peu parce que là, il est déjà quoi, tout près d'une heure du matin chez vous, là.
Même 2 heures du matin, là, voilà, rendu à midi. Ça va vite. Les journées passent très vite et les nuits sont très, très courtes, mais c'est la vie de reporter. Il n'y a aucun problème. Place au sport, même.
Ça va être excitant. Merci beaucoup, Philippe.
Merci, au revoir.
Au revoir.